Le débat du jour. Sébastien Duhamel.
C'est l'heure. L'heure des cartables, des livres et des cahiers. En France, l'heure de la rentrée des classes a sonné ce jeudi. Une rentrée au goût particulier pour plus de 12 millions d'élèves et pour la deuxième année de suite, car elle est une nouvelle fois placée sous le signe du Covid-19. Le protocole sanitaire a été adapté pour faire face, assure le ministère de l'Éducation nationale. Mais certains syndicats de professeurs et parents d'élèves dénoncent toujours des insuffisances. Alors, ce protocole est-il à la hauteur de cette rentrée sous Covid ? C'est notre débat du soir sur RFI.
RFI.
Et pour le passer à la loupe, ce protocole, pour en débattre en cette journée de rentrée, avec nous en studio, Bruno Bobkiewicz, principal et proviseur du collège-lycée Berlioz à Vincennes. Bonsoir Bruno Bobkiewicz.
Bonsoir.
Vous êtes également secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. À vos côtés ce soir, Guylaine David, secrétaire général et porte-parole du SNUIP-FSU, syndicat du premier degré. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, pour compléter notre table ce soir, Thierry Amouroux, porte-parole du SNPI, le syndicat national des professionnels infirmiers. Bonsoir Thierry Amouroux.
Bonsoir.
Alors merci à tous les trois d'abord de prendre le temps de participer à ce débat avec nous ce soir. Et pour commencer, l'Élysée, l'exécutif, voulait une rentrée la plus normale possible. C'est ce qui avait été affiché, clamé un petit peu partout. Bruno Bobkiewicz d'abord. Alors, votre verdict, cette rentrée, c'était une rentrée normale dans votre collège-lycée ?
Alors, je ne sais pas où est la normalité aujourd'hui, mais on a malheureusement pris l'habitude d'accueillir les élèves avec des masques et leur parler, notamment quand on les rencontre de façon massive, comme on le fait depuis ce matin, de sanitaire, voire plus de sanitaire que de pédagogique, en leur rappelant les gestes barrières, en leur rappelant tout un certain nombre de protocoles. Et c'est ce qu'on a fait depuis ce matin. Donc c'est devenu normal de le faire, mais c'est quand même pas tout à fait une rentrée normale, même si on essaye de les accueillir dans les meilleures conditions possibles, avec tout le dispositif complet et des effectifs complets à ce stade. Mais c'est quand même pas tout à fait une rentrée normale, c'est quand même exagéré de l'annoncer comme ça.
Guylaine David, même question pour vous, pour démarrer. Cette rentrée, elle était normale ?
Malheureusement, non, elle n'était pas normale. On aimerait bien en retrouver cette normalité. Mais c'est la deuxième rentrée sous Covid et particulièrement cette année, elle est inquiétante, cette rentrée, puisqu'elle est sous le signe du variant Delta, qui est annoncé comme étant beaucoup plus contaminant chez les enfants. L'Institut Pasteur annonce 50% des contaminations au mois de septembre qui concerneront les enfants. On sait que les enfants, en plus, sont parfois asymptomatiques et on ne sait pas comment on va pouvoir détecter ces cas et vérifier que la circulation du virus n'est pas trop importante dans nos écoles. Donc, on sait que ce n'est pas une rentrée normale. Après, les enseignants étaient contents aujourd'hui de retrouver leurs élèves. Les élèves étaient contents de se retrouver. C'est important qu'ils gardent le lien social qui est l'école. Et puis, on va essayer de tout faire pour que ça se passe au mieux. Mais on a quand même des craintes sur ces semaines à venir.
D'autant que dans le premier degré, il n'y a pas de vaccination en dessous de 12 ans. Il faut le rappeler, c'est important. Les moins de 12 ans ne sont toujours pas sujets à la vaccination. Le gouvernement promet des tests massifs, de l'ordre de 600 000 tests par semaine. C'est bien ça qui est prévu par le gouvernement. C'est suffisant et est-ce que c'est possible, selon vous, dans le premier degré, un tel niveau de dépistage ?
Alors, c'est compliqué parce que ces 600 000 tests, on n'a jamais réussi à les atteindre l'année dernière. Entre le nombre de tests qu'on propose et qui sont réellement réalisés, il y a un delta, puisqu'il n'y a que 60% des familles qui acceptent, parce que c'est soumis à l'acceptation des parents, qui acceptent de faire tester leurs enfants. Et pourtant, c'est important de tester les enfants. Alors, nous, on pense que tester de cette façon, de façon massive, là où il y a des clusters ou en choisissant des écoles de façon aléatoire, ça n'a pas d'intérêt si ce n'est pas répété régulièrement. Et nous demandons à ce qu'il y ait vraiment un changement de politique sur ces tests, qu'on s'oriente sur autre chose, qu'on en discute et que c'est ce que prône aussi le conseil scientifique et qu'on teste très régulièrement, donc une à deux fois par semaine les élèves pour vérifier s'ils sont positifs ou non, puisque comme je disais, ils sont souvent asymptomatiques et il faut quand même, enfin, même même s'ils sont asymptomatiques, ils sont contaminants. Donc il faut essayer d'en avoir le moins possible dans nos écoles. On sait qu'on en aura, ça c'est certain, mais il faut essayer d'en avoir le moins possible pour que le virus évite de circuler à l'intérieur des écoles et puis ressorte des écoles et puis contamine les parents, voire une partie de la population qui n'est pas protégée par la vaccination. Donc c'est vraiment important ces tests et on pense qu'il faut vraiment modifier la politique actuelle sur les tests.
Avant de donner la parole à Thierry Moreau sur ce point, je me tourne vers vous, Bruno Bobkiewicz. La problématique, elle est un peu différente dans les collèges-lycées parce que la vaccination est possible à partir de 12 ans. Le protocole prévoit qu'en cas de cas positif au Covid, vous deviez lister tous les cas contacts possibles, etc. Ce protocole, il est facile à mettre en place. Est-ce qu'il est possible, à votre avis, dans vos collèges et vos lycées?
Bon, en fait, le protocole qui est proposé aujourd'hui est assez similaire à celui qu'on a appliqué quasiment
l'intégralité
de l'année dernière. Donc, on est sur la recherche de cas contacts, on est sur le respect des gestes barrières, on est sur des aménagements de demi-pensions et d'EPS qu'on a déjà plus ou moins pratiqués l'année dernière. Donc, il y a objectivement peu d'évolution. Donc c'est des choses qu'on a malheureusement appris à faire. Donc, dans mon établissement, j'ai géré 158 cas positifs en un an. Bon, j'ai 1800 élèves et 200 personnels. Mais en l'occurrence, ces automatismes, on les a pris par la force des choses. Donc, on est capable de faire cette enquête-là, d'identifier les cas contacts, d'isoler et d'informer les familles rapidement. C'est des gestes qu'on a appris à faire. Donc, on va réappliquer ces automatismes à la rentrée. La question est de savoir quelle est la volumétrie à traiter. Ça, c'est difficile de le savoir à ce stade, puisqu'on a effectivement une visibilité sur les taux de vaccination de différentes zones, et on voit bien que ça progresse de façon assez importante. Mais la question, c'est est-ce que c'est suffisant pour pouvoir limiter la propagation? Moi, c'est pas mon métier de le dire et de le prévoir. Donc, on va voir la façon dont les choses évoluent rapidement ces prochaines semaines, pour savoir si potentiellement il faut aller plus loin.
Thierry Amoureux, vous représentez les infirmiers. Côté médical, il y a une vraie pression encore aujourd'hui. Il y a une crainte, Guylaine nous le disait tout à l'heure, sur le variant Delta. C'est une vraie crainte aujourd'hui du corps médical face à ce protocole sanitaire dans les écoles, que ce variant se propage plus rapidement encore.
Ah oui, il y a une vraie inquiétude des soignants par rapport à ce protocole qui est complètement inadapté. Enfin bon, nous, le principe de base que l'on voit dans les autres pays, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'ouvrir les fenêtres. On n'est plus au Moyen-Âge.
Oui, justement. Alors là, c'est sur l'aspect aéroporté, sur la transmission aéroportée. Vous avez justement signé, sur ce point, je le précise, une tribune dans La Croix, c'était en mars dernier, « Mieux protéger l'école de la République ». Et vous préconisiez notamment l'installation de détecteurs de CO2, l'installation de purificateurs d'air. C'est primordial pour vous aujourd'hui, il faut le faire?
Ah, totalement, totalement. Ouvrir les fenêtres, c'est bien, ça réduit, mais quand on voit que des pays comme l'Italie ont consacré 2,9 milliards à la protection Covid des établissements scolaires cette année, on a du mal à comprendre que la sixième puissance mondiale soit pas capable de sortir 300 millions d'euros pour doter de purificateurs d'air chaque salle de classe et en nombre suffisant chaque cantine. Parce que les modèles mathématiques qui ont été faits montrent bien que l'aérosol d'un variant comme le Delta, en fait, s'il n'y a pas le purificateur d'air, ce n'est pas suffisant. Il y a quand même des enfants qui vont se contaminer. Alors, nous, ce que l'on voit à l'hôpital, on voit une augmentation du taux d'hospitalisation des enfants de moins de 9 ans et des jeunes de 10 à 19 ans. C'est faible, très clairement.
Ça reste marginal.
En termes, vous avez 1,2% des moins de 9 ans contaminés par le Covid qui sont hospitalisés. Mais multipliez ça par des millions d'enfants.
Ouais, c'est l'échelle qui fait peur.
Voilà, vous avez un effet taille que 1,2%, ça fait beaucoup d'enfants. Ouais. Et puis, vous avez également 5%. de ces jeunes qui ne vont pas avoir une forme grave, mais vont avoir un Covid long.
Oui, ce qu'on appelle un Covid long, c'est-à-dire avec des symptômes qui sont persistants et qui durent dans le temps, qui s'installent.
Qui vont durer dans le temps. Et c'est déjà difficile pour des adultes. Mais imaginez par rapport à des enfants qui ont 5 ans, 10 ans et se retrouvent déjà avec une maladie qui va durer on ne sait combien d'années, parce qu'on a des gens qui ont été atteints de Covid long en début 2020 et qui ont toujours des symptômes aujourd'hui. Donc on ne comprend pas qu'on mette en danger les enfants alors que...
C'est une mise en danger. Pour vous, c'est clairement une mise en danger.
Oui. Ouais, oui. Et puis, il y a des choses aussi aberrantes. L'idée qu'on puisse continuer le sport en intérieur.
En intérieur, justement. C'est un des points qui fait débat. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, Guylaine David? Il y a certains points qui pêchent. D'aucuns disent le sport en intérieur, d'autres, les cantines, justement. Thierry Amouroux a évoqué le cas des cantines. On en a beaucoup parlé. Oui. Et c'est pas suffisant ce qui est fait.
Oui. Nous, on l'a dit au ministre lors des réunions que nous avons pu avoir pour préparer cette rentrée, la semaine dernière, et puis on le dit depuis une quinzaine de jours déjà, le choix du niveau 2 n'est pas suffisant pour nous. Alors, on comprend que le niveau 3.
Pour préciser, il y avait fin juillet quatre niveaux qui ont été présentés par l'Éducation nationale en fonction du niveau de la circulation du virus. Et c'est le plan 2 qui a été retenu pour cette rentrée.
Alors, on ne demandait pas forcément de passer au plan 3, puisque dans le plan 3, il y avait la question de l'hybridation, et on sait que c'est compliqué pour les élèves, c'est compliqué pour les enseignants, donc on ne voulait pas faire ce choix non plus. Mais on souhaitait renforcer le niveau 2 avec d'autres mesures. Vous avez raison sur la question de l'aérosolisation, c'est quelque chose, ça fait un an qu'on réclame des détecteurs de CO2 dans nos classes.
Vous avez justement, co-signé une tribune dans Le Monde,
c'était le 19 dernier. Avec des médecins, des scientifiques.
Des médecins et des enseignants.
Voilà, et notamment un collectif qui s'appelle Du Côté de la Science et qui porte cette idée de la nécessité des capteurs de CO2, des purificateurs d'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans nos écoles, on a des salles de classe où on ne peut pas aérer. C'est-à-dire où on ouvre les fenêtres de façon... Enfin, c'est des classes qui sont à l'étage, les fenêtres sont oscillo battantes et l'air ne passe pas. L'aération ne se fait pas.
La ventilation ne se fait pas.
Donc on peut ouvrir toutes les 15 minutes, ça ne changera rien. Donc il nous faut des capteurs de CO2 pour mesurer le taux de CO2 et puis après des purificateurs d'air pour aérer. On sait que ça fonctionne. Vous avez raison, il y a des pays européens qui l'ont fait. La France ne prend... Alors, on nous reporte toujours, c'est pas de notre responsabilité, ce sont les communes, ce sont les régions, les départements. Sauf que les communes nous renvoient l'idée, il y a eu des déclarations de maires qui disent, moi, très sincèrement, s'il faut que j'équipe toutes les classes et les cantines, j'ai pas le budget pour ça. Donc, il faut vraiment un plan là de l'État, un plan de financement d'État qui aide. Effectivement, ça permettrait de sécuriser les écoles. La question de la cantine, par exemple, dans le protocole, on avait demandé à modifier le protocole sur la cantine parce qu'on n'a pas les règles aussi strictes qu'en juin et juillet, enfin qu'à la fin de l'année scolaire. C'est-à-dire qu'on peut mélanger.
Il y a un relâchement sur ces règles, il y a un brassage.
Il y a un brassage plus important, on n'est pas obligé de distancier les élèves. Alors c'est vrai que distancier les élèves, ça fait multiplier les services de cantine, ça fait embaucher du personnel de cantine supplémentaire, ça coûte aux collectivités locales. Là aussi, il faut peut-être qu'il y ait une aide. Mais, donc on voit bien, il y a la question du sport et aussi, et puis la question on a pointé aussi sur les cours d'école, c'est-à-dire que on dit la cour de récréation, plus de masques en extérieur. Oui, c'est vrai que quand un enfant court et qu'il n'est pas il est à distance des autres, il ne va pas avoir de risque. Mais on a dans nos cours de récréation des petits groupes d'élèves, des grappes d'élèves qui se parlent entre eux, qui se chuchotent même entre eux. Et donc on sait que même le variant Delta en extérieur, les médecins disent aussi que c'est problématique parce que le virus peut circuler. Donc il y a des points comme ça qu'il fallait renforcer sur les cours de récréation et sur l'extérieur. Il y a des préfets qui ont pris des mesures là dans certains départements et qui disent port du masque, notamment aux abords des écoles pour les parents d'élèves et aussi à l'intérieur des cours de récréation. Mais on voit bien que c'est flou parce que tout le monde n'adapte pas le même protocole.
Bruno Bobkiewicz, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Il y a encore des insuffisances. Est-ce qu'un plan de l'État serait indispensable là-dessus? Et le niveau 2 d'alerte qui a été choisi, le niveau du plan, pardon, qui a été choisi, est-ce que c'est le bon?
Moi, je pense qu'il faut tester pour savoir. C'est-à-dire, de toute façon, quelles que soient les décisions qui ont été prises, il y a toujours ceux qui trouvaient que c'était bien, ceux qui trouvaient qu'on allait trop loin et ceux qui trouvaient qu'on n'allait pas assez loin. Donc le débat, il sera incessant.
Il y a toujours des mécontents.
À chaque fois qu'une décision sera prise. Donc moi, je n'ai pas de compétences particulières dans les domaines qui sont évoqués là. Il faut qu'on teste. Il y a une décision qui est prise, effectivement, qui est plutôt de bon sens, en tout cas, en ce qui concerne les collèges et les lycées. Moi, je ne me positionne pas sur le premier degré. Ce n'est pas mon domaine de compétences. On peut, en tout cas, dans mon établissement, par exemple, on décide de garder le protocole de fonctionnement par classe à la demi-pension, parce que ça fonctionnait très bien, et en l'occurrence la question du brassage et du contact tracing est simplifiée par le fait que les élèves déjeunent par classe, donc on va garder ce dispositif-là, qui est en fait la ligne qui correspond au protocole numéro 3. Donc on décide d'aller un peu plus loin, parce que mon fonctionnement m'autorise à le faire. Voilà. J'ai pas de difficulté avec ça, on peut aller un peu plus loin et être un peu plus strict dans l'établissement, si on considère que ça le nécessite. Donc aucun problème avec ça, parce que ça n'a pas d'incidence, ça ne dégrade pas le fonctionnement. Donc ça sécurise davantage. Voilà, donc je pense qu'il faut tester pendant les semaines qui viennent, et on verra. Il faut surveiller de près tout ça. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que dans les endroits qui se ventilent correctement, j'entends bien, on n'a pas besoin de détecteurs pour savoir à quel moment il faut ventiler.
Alors, il faut préciser quand même que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit qu'il y aurait certains détecteurs de CO2 installés, mais il n'y a pas de calendrier non plus.
Non, mais c'est surtout qu'il a rappelé que, mais la collègue le disait, que ça n'est pas de sa responsabilité. Donc, ce sont les régions qui gèrent les lycées, les collèges qui gèrent les départements et les mairies qui gèrent les écoles. Et à ce titre-là, l'équipement est de la responsabilité de cette collectivité. On a eu le même débat quand les environnements numériques de travail ont complètement dysfonctionné quand on a fermé les écoles. On a attaqué l'État. Les collectivités étaient aussi responsables. Il y a les lois de décentralisation qui font qu'à un moment donné, c'est compliqué parce qu'on sait pas, on sait plus qui paye ou qui doit payer.
Le fameux millefeuille administratif.
C'est la difficulté de l'administration française. Il y a différents interlocuteurs et ça ne facilite pas et la prise de décision et le financement.
Ouais. Et sur les moyens, justement, Guylaine David nous disait que ça manque quand même un petit peu de moyens pour ajuster en fonction des niveaux. Rien à dire là-dessus?
La problématique n'est pas la même, parce que la question, je partage complètement l'idée, il s'avère que je partage l'avis d'une directrice d'école, donc je vois parfaitement de quoi on parle, et donc la question de la multiplication des services entraîne effectivement des surveillances supplémentaires. Nous, cette autonomie-là de fonctionnement, on l'a. Et il suffit de réorganiser le service. C'est pas la même problématique dans le premier degré, puisqu'on dépend potentiellement de personnel de la mairie. Je partage parfaitement ce qui se dit sur le premier degré. La problématique n'est pas la même sur le second. Il y a la question des moyens liés à la vaccination qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Là, il y a des médiateurs qui sont prévus. Bon, moi, j'ai pas encore une notification pour me dire combien je vais en avoir. Donc je dois mettre en place une campagne de vaccination
sans savoir
si on va me reproduire les moyens que j'avais obtenus en mai et en juin. Et ça, c'est des informations importantes parce qu'on nous annonce 1700 postes. C'est très bien. C'est nécessaire pour nous accompagner dans cette démarche-là. Et encore faut-il qu'ils soient notifiés et affectés dans les établissements.
Ouais. Bruno Bobkiewicz, il y a un point intéressant que vous souleviez tout à l'heure. Vous nous disiez, en somme, que ce protocole sanitaire pour la rentrée, c'était dans les grandes lignes le même que ce qui avait été mis en place l'année dernière. Thierry Amouroux, vous qui représentez les infirmiers, et vous qui avez été de ceux qui n'ont eu de cesse d'alerter justement sur le besoin de renforcer la protection des enfants, reprendre dans les grandes lignes le même plan que ce qui a été fait l'année dernière, c'est bien là-dessus, ou alors vos alertes, elles ont finalement été quelque peu ignorées?
Oui, parce que pour nous, l'installation de purificateurs d'air dans les classes et dans les cantines, c'est pas un débat scientifiquement. On a le recul sur les autres pays, on a les modélisations mathématiques, donc on sait que c'est ce qu'il faut faire si on veut protéger les enfants. Et donc c'est le rôle de l'État de protéger ses citoyens et les enfants des citoyens. Et donc, on n'a pas à dire oui, c'est à la mairie ou c'est la région. On n'a pas à s'occuper des lois de décentralisation. L'État doit assumer sa responsabilité de protection des citoyens. Et donc, c'est lui qui doit doter les établissements scolaires de ces purificateurs d'air de manière rapide et qui n'est pas simplement tel département plus riche que l'autre, telle ville plus riche que l'autre, qui va acheter tel matériel.
Les inégalités territoriales, etc. Simplement, peut-être.
Oui, aussi. Et puis encore une fois, c'est la responsabilité de l'État par rapport aux citoyens. C'est pas je peins telle école ou j'achète tel jouet, enfin tel équipement sportif.
C'est fondamental.
Voilà. Ouais. Là, il y a la vie des enfants, leur santé qui est en jeu, et c'est à l'État de prendre ses responsabilités.
Bruno Bobkiewicz, j'ai entendu que ça vous a fait sourire. On ne doit pas s'occuper de la décentralisation, c'est à l'État. C'est trop facile pour vous de dire ça ?
Bah évidemment, je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. On peut faire des déclarations théoriques. Hein. Après, il y a la vraie vie, et la vraie vie, c'est pas celle-ci. Hein. Donc, dans nos établissements scolaires, mais peut-être qu'il faut le vivre pour le comprendre, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, voilà.
Merci à vous.
Le débat du jour. Sébastien Duhamel.
Alors, il y a les craintes des parents, des enseignants, on vient de le voir, en ce qui concerne la santé des enfants. Mais il y a aussi le cas des enseignants eux-mêmes, que j'aimerais aborder avec vous maintenant, si vous le permettez. Plus de 866 000 enseignants à l'échelle nationale. Le dispositif et l'accompagnement sont-ils à la hauteur sur ce point ? Guylaine David, est-ce qu'on accompagne suffisamment les enseignants en cette période de Covid ?
Alors, ça fait 18 mois, effectivement, qu'on est en période... perturbés, on va dire, en période de Covid. Enfin, donc, les écoles sont perturbées et forcément, les enseignants sont perturbés par cette mise en place. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que on a des protocoles et des changements de protocoles. Alors, c'est vrai que la crise est là, qu'on ne sait pas comment s'adapter, mais que en fait, c'est le terrain qui s'adapte aux décisions, et les décisions sont prises souvent dans l'urgence et souvent sans anticipation. C'est-à-dire que le protocole, par exemple, qui est sorti au mois de juillet, on avait demandé de faire un bilan, de tirer un bilan en fin d'année scolaire et d'essayer de construire ensemble le protocole, même si on n'avait pas de visibilité sur la rentrée, mais de pouvoir le construire ensemble. Il est sorti au mois de juillet, dans une période de vacances. Il a fallu attendre hier matin pour avoir la foire aux questions, c'est-à-dire que techniquement, sur le terrain, comment on va mettre en place un certain nombre de choses. Les sorties scolaires, l'accueil des parents, les réunions à l'intérieur des écoles. Et il a fallu attendre hier matin pour avoir toutes ces réponses-là.
C'est un peu court.
C'est-à-dire que il y a la vie des établissements. Il faut, sur le terrain, il y a la vraie vie aussi. Et comment on met en place tout ça. Donc, il faut toujours s'adapter. Et ça use les personnels, ça c'est sûr, parce que il faut toujours mettre en place des choses. Alors, on a l'expérience, malheureusement, hein, comme on le disait tout à l'heure, on a plus d'un an d'expérience de cette période de Covid où il faut s'adapter, mais ça n'empêche que parfois sur le terrain, on a des ordres, des contre-ordres, ça arrive du ministère, ça arrive, nous, des circonscriptions ou des directions académiques, on n'a pas les mêmes réponses à nos questions, et effectivement, sur le terrain, ça coince. Donc, il y a des phénomènes de tension, parce que parfois, on dit des choses aux parents d'élèves, on leur annonce des choses, et puis le lendemain, on a eu un texte du ministre, ou on a eu quelque chose qui... Et on va dire le contraire. Donc, on voit bien qu'il y a de la tension, et ça pèse quand même sur le corps enseignant, en tout cas, dans le premier degré, on l'a senti, notamment au niveau des directrices et des directeurs d'école qui sont obligés de faire l'interface souvent et de gérer les choses. Donc c'est vrai que c'est compliqué.
Un manque de visibilité aussi.
Manque de visibilité, tout à fait.
Vous l'évoquiez déjà d'ailleurs, Bruno Bobkiewicz, ce manque de visibilité. C'était à propos des médiateurs, si je ne m'abuse. Vous le ressentez également au niveau des enseignants. Ils en souffrent de ça, finalement, ce manque de visibilité. Un jour, on va dire blanc, un jour, on va dire noir.
Alors, c'est le principe de la gestion de crise. Hein, ouais. Mais c'est quand même difficile à accepter. Hein, c'est vrai que c'est... moi, je suis très content de ne pas être celui qui décide. Hein, mais dans tous les cas, c'est compliqué pour les personnels sur le terrain d'être amenés à modifier les fonctionnements et les organisations. Hein, et c'est vrai que de ce point de vue, on aimerait tous une capacité d'anticipation, une capacité, un délai supplémentaire pour nous permettre d'évoluer et de tenir compte des décisions qui sont prises. Et là-dessus, il y a des accords à la fois sur parfois des décisions qui sont prises et puis parfois sur les modes de communication. Donc c'est vrai que notre demande répétée, c'est de faire en sorte que les personnels soient prévenus avant le grand public. Et là, forcément, on peut pas être d'accord.
Parce que parfois, vous apprenez vous-même les démarches dans les journaux.
Et on lui a déjà dit et il s'en explique. Et je pense qu'on sera jamais d'accord là-dessus. Voilà, on ne peut plus imaginer, et c'est encore arrivé ces dernières semaines, avoir les informations en lisant les journaux ou en écoutant la radio. C'est très désagréable. Hein, donc, même si parfois l'urgence nécessite une communication large et importante, mais il n'y a pas toujours urgence. Hein, donc, et parfois, notamment la décision du choix du niveau de protocole aurait pu se faire en direction des personnels avant de faire en direction du public à travers un journal, d'ailleurs un dimanche.
Et en tant que principal, en tant que proviseur et syndicaliste également, vous avez le sentiment d'avoir l'oreille des dirigeants sur ce sujet, ou alors ce manque de communication, de clarté, finalement, c'est révélateur aussi peut-être d'une forme d'isolationnisme.
Il y a une écoute et un dialogue permanent qui s'établit. Ouais. Donc on est très souvent en échange et très souvent reçu, et on a l'occasion d'échanger sur beaucoup de sujets. Mais on est sur cette question de communication pas d'accord. Hein, donc on est écouté. Voilà, le ministre encore une fois l'a entendu plusieurs fois ou l'a lu plusieurs fois parce qu'on l'a exprimé à plusieurs reprises. Mais encore une fois, on a le droit de pas être d'accord, c'est tout. Hein, et sur ce sujet, sensiblement, on ne l'est pas.
Voilà. Guylaine David, sur l'écoute du gouvernement, vous avez, en tant que syndicaliste du premier degré, l'impression d'avoir l'oreille du gouvernement ?
Non, pas vraiment. Je ne vais pas avoir le même discours de ce point de vue-là. On sent bien que on essaye d'avoir cette écoute dans les réunions avec lesquelles. Enfin, voilà, on va dans les réunions, notamment les réunions sanitaires, et on a très peu de réponses en règle générale dans ces réunions. On expose tous nos difficultés, nos questions. On a souvent très peu de réponses. On n'a pas l'impression. Alors, le ministre est là dans les réunions, il nous reçoit, mais ça va jamais. On a vraiment l'impression qu'il y a parfois un barrage, je sais pas, mais ce qui est dommage, c'est que c'est les personnels sur le terrain qui en pâtissent. C'est vrai que apprendre le protocole un dimanche, voilà, avant la rentrée dans la presse, c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est épuisant. C'est-à-dire que ça crispe les personnels, et on n'a pas besoin de ça, de crisper les personnels comme ça. Donc on n'a pas besoin de déclarations qui nous crispent sur le terrain. On a besoin d'une écoute. On aurait besoin d'avoir, effectivement, il y a des formes de communication via les personnels. On pourrait avoir cette communication de la part du ministre. Là, on ne l'a pas. On est reçu, on n'est pas forcément entendu par tout ce qu'on demande. On s'est rendu compte, par contre, qu'il a fallu, l'année dernière, on demandait un protocole beaucoup plus resserré, beaucoup plus strict. Il a fallu quand même attendre que la situation soit assez catastrophique pour avancer la période de vacances scolaires et puis remettre en place un protocole beaucoup plus strict. C'est ce qu'on demandait depuis le début de l'année. On voyait bien qu'il n'y avait pas d'écoute. Et là, c'était par la force des choses, on a attendu un peu trop longtemps pour le faire. Oui. Donc on a vraiment cette crainte. C'est pour ça que là, on nous annonce que le protocole pourrait changer. Hein. C'est pas fixé. Alors justement, on va attendre de voir.
Jean-Michel Blanquer dit qu'il y aura forcément des
adaptations, mais il faut pas attendre trop longtemps.
C'est au niveau du taux d'incidence, du taux d'hospitalisation. Il y a plusieurs facteurs.
On sait que plus on aura de cas d'enfants contaminés, plus il y a des risques d'avoir des Covid longs, des cas graves, des enfants hospitalisés. Donc n'attendons pas un mois de classe, parce que les fermetures, on les aura pas la semaine prochaine, hein, très peu, c'est sûr. On pourra annoncer qu'il n'y a pas de fermeture de classe. Mais dans un mois, quel sera l'état des écoles? Et là, c'est inquiétant, parce qu'on aura déjà eu trop de contaminations.
Je vois Thierry Amourou qui hoche la tête, justement. Vous êtes d'accord là-dessus? Ce sera trop tard, un mois pour changer ce niveau de plan, finalement?
Ah oui, nous, ça fait un an qu'on réclame des mesures comme celles que j'avais décrites tout à l'heure. Quoi. Donc, voilà.
Et quant au passage, justement, d'un échelon à un autre sur ce plan, ce sera le taux d'incidence au niveau local, le taux de vaccination, le taux d'hospitalisation également. Ce sont les bons critères à prendre en compte. Et on se centre là-dessus, c'est suffisant pour vous, pour passer d'un échelon à l'autre ?
C'est des bons critères, mais chaque échelon n'est pas vraiment adapté. Enfin bon, le niveau 1 ne devrait même pas exister. On voit bien ce qui pêche dans chaque niveau, tel que je vous l'ai décrit, les purificateurs d'air, le sport en intérieur... Et je voudrais bien savoir comment se passe aussi le changement de masque, parce que certes on contrôle que les enfants aient un masque, mais est-ce qu'ils gardent le même de 8h du matin à 17h?
Collège, lycée, est-ce qu'ils gardent le même masque, vos élèves, ou est-ce qu'ils le changent?
Je ne suis pas en capacité de contrôler ça. Je ne peux pas avoir un petit 1 pour le matin et graver un petit 2 pour l'après-midi. Le contrôle du masque, c'est déjà un travail et c'est une gageure. Le changement de masque, c'est une consigne et une demande. Elle est invérifiable. Enfin, faut être honnête. Moi, je ne suis pas en capacité de vérifier si le masque de l'après-midi est différent de celui du matin. Impossible.
Guylaine David, c'est impossible à vérifier?
Oui, c'est impossible. C'est impossible de vérifier. Nous, à la limite, on a des élèves donc plus jeunes, on peut être derrière eux. Bah, par contre, après le repas, au moment du repas, on leur demande de remettre le masque entre chaque plat. C'est impossible.
C'est compliqué. C'est compliqué. Merci. Merci à vous trois, Bruno Bobkiewicz, Guylaine David et Thierry Amouroux, d'avoir accepté ce débat sur RFI. Merci à Guillaume Lebouvier qui était à la réalisation. Restez avec nous sur la radio du Monde. Dans 30 secondes, c'est le retour de l'info.
Du 28 août au 12 septembre,